Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Au début de chaque année, en France, le monde médiatique s'emploie à nous donner la liste des 50 personnalités préférées des Français. Dans ce classement, établi par le Journal du Dimanche, on trouve pêle-mêle des sportifs, des comédiens, des acteurs et même des présentateurs télé. Longtemps, ce classement fut dominé par un religieux, l'abbé Pierre. On y trouve aussi, plus rarement, des hommes politiques. Dans ce classement, on le voit, l'image domine, celle du petit, mais aussi du grand écran, celle des magazines qui s'étalent dans nos kiosques à journaux. Toutes ces personnes sont dites célèbres, chacune a sa propre gloire, sa propre renommée. Parfois, ces personnes ont cultivé leur propre image. On sait, depuis le général de Gaulle, que la télévision peut s'utiliser. On sait aussi que la télévision, tout comme le monde médiatique, peut défaire en quelques heures une gloire d'hier. Alors que l'on aurait tendance à lier ce phénomène au monde moderne, ou plus exactement au monde contemporain, à cause précisément du contexte de surmédiatisation, il faut en fait remonter plusieurs siècles en arrière pour trouver les prémices de la renommée, de la gloire publique, mais aussi, entre guillemets, de la propagande. Plus exactement, au XIVe siècle, deux personnages sont emblématiques de ce qui, plus qu'une tendance, est une réalité. En effet, avec Bertrand du Guesclin, soldat valeureux, et Jean Froissart, chroniqueur, nous avons deux personnages qui non seulement agissent dans le siècle, mais surtout ont conscience de cette action et de la gloire qu'ils en tirent. La fabrication de la renommée aux temps médiévaux, c'est ce que je vous propose de découvrir avec l'historien Bernard Guenet. Bernard Guenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres. C'est la deuxième fois que je vous reçois au micro de Canal Académie.
Oui.
Je vous ai reçu une première fois à propos de la folie de Charles VI,
oui, oui,
à l'occasion de la sortie de votre ouvrage chez Perrin sur le sujet. Et vous venez de publier chez Talandier, Du Guesclin et Froissart, la fabrication de la renommée. Alors, au fond, cet exercice est avant tout un exercice de sémantique, puisque tout votre ouvrage est dominé par cette notion de renommée, mais ce mot de renommée, il existait déjà auparavant, il existait notamment aux temps antiques.
Oui, tout à fait. Je démontre dans une première partie, enfin dans un premier chapitre, si vous voulez, que ce qui est nouveau au XIVe siècle, ce ne sont pas les mots. Les mots ont toujours été les mêmes, depuis l'Antiquité, et il y a deux grands registres, si vous voulez. Il y a le registre de la renommée, qui se dit « fama » en latin, et il y a le registre de la gloire, qui se dit « gloria » en latin. Et cette renommée et cette gloire sont définies de la même façon dans l'Antiquité, dans les premiers siècles du Moyen-Âge et encore au XIVe siècle. Il y a sur le mot « gloire » des variantes ou des ambiguïtés sur lequel peut-être je n'insisterai pas, sauf si vous me le demandez. Mais pour le reste, il faut bien dire que les mots étant les mêmes, ce qui change énormément, c'est les conditions dans lesquelles cette gloire ou cette renommée est recherchée par les individus. Et tout cela dépend, m'a-t-il semblé, à partir du moment où j'ai découvert que Du Guesclin et Froissart, presque contemporains, avait brillé dans cet exercice de la fabrication de la renommée, tout cela dépend en somme de l'évolution de la société politique au XIVe siècle, qui est une société politique tout à fait nouvelle, avec des possibilités de montée sociale qui n'existaient pas avant. Les phénomènes fondamentaux, c'est la naissance d'une opinion publique, dont par ailleurs j'ai déjà un peu parlé, et la naissance d'un public, c'est-à-dire d'un public qui, avec sa culture, cherche à mettre en valeur ou à lire les ouvrages, par exemple, d'un historien. Un historien ou un chevalier ne pouvait avoir auparavant qu'une renommée très limitée, Mais comme maintenant il y a une société à l'échelle du royaume où il y a une opinion publique et un public, eh bien, tous les espoirs sont donnés à ceux qui veulent se donner la malle de fabriquer leur renommée.
Alors nous allons à la fois travailler sur le terme de renommée et sur le terme de gloire. Est-ce que aspirer à la renommée justement dans le contexte du bas Moyen-Âge, est-ce que c'est une chose légitime? Est-ce qu'au fond c'est chrétien que, d'aspirer à cette renommée?
Le christianisme a eu des positions tout à fait différentes suivant les époques et suivant les personnes. Ce qui est sûr, c'est que dans l'Antiquité, aspirer à la renommée est parfaitement légitime. Parce que c'est avec des gens qui aspirent à la renommée qu'on trouve des gens qui cultivent l'État, qui défendent l'État et qui se mettent au service de l'État. Par conséquent, il n'y a pas d'ambiguïté dans l'Antiquité. Et il n'y a pas non plus d'ambiguïté sur le fait que dans l'Antiquité, on peut rechercher la gloire, parce que la gloire, ce n'est par définition qu'une renommée étendue à une grande surface de la terre. Il n'y a pas de différence de nature, il y a une différence de degré entre la renommée et la gloire. Au contraire, il y a dans l'atmosphère chrétienne, avec Boèce en particulier, et sa consolation de la philosophie, il y a une volonté de mépriser et la renommée et la gloire. Et il explique très bien dans sa consolation de la philosophie, c'est pas la peine de courir après une renommée, qui d'ailleurs est bâtie la plupart du temps sur un malentendu, puisque les mérites de la renommée peuvent être différents suivant les civilisations, qui ne peut pas s'étendre à toute la terre, parce que de toute façon, toute la terre, ça représente très peu de choses, c'est à un point dans le monde, et qui ne peut pas durer, parce qu'il n'y a aucun moyen de faire durer la mémoire au-delà d'un certain moment. Par conséquent, il y a une sorte de mépris de la renommée et encore plus de la gloire sur lequel se bâtit le Moyen-Âge. Alors la gloire étant réservée à Dieu et à ses saints, les choses semblent simples. Et puis petit à petit, au XIe, XIIe, XIIIe siècle, on voit petit à petit remonter chez les chrétiens le désir de la renommée qui est lié par exemple aux croisades. Les croisades, c'est la gloire pour les chevaliers, pourvu qu'ils meurent pour le Christ. Alors à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont pour tâche de réaliser des actions de prouesse, de telle sorte qu'ils puissent conquérir la renommée et même peut-être un jour la gloire. Et petit à petit, en plus, au XIIIe ou XIVe siècle, on en revient à la définition antique. Et donc cette définition antique, entièrement reprise par les auteurs du XIVe siècle, légitime le désir de renommée et même, au-delà, le désir de gloire.
Il y a un lien entre la gloire sur terre et, au fond, le salut éternel?
Pour les saints, pour tous ces clercs qui se dévouent à Dieu, il n'y a pas de problème. Pour les chevaliers, c'est un peu plus difficile de concilier la gloire sur terre et la gloire dans le ciel. Mais enfin, on y arrive pourvu que l'homme ait été assez habile pour se créer un courant de sympathie dans l'opinion.
Alors l'émission Un jour dans l'histoire veut briser les idées reçues. Est-ce que la naissance joue dans la renommée? Est-ce qu'une personne de naissance obscure peut obtenir une renommée et pourquoi pas une gloire?
Alors, c'est précisément là, si vous voulez, la base de mon livre, c'est que au XIIe siècle, il est évident que la renommée ne peut être qu'une affaire de gens déjà connus par leur naissance. La naissance est l'élément essentiel dans la vie d'un homme et au fond, sauf les exceptions très nombreuses dont je vais parler tout à l'heure, vous pouvez multiplier les prouesses, ça vous permettra de briller parmi vos pairs. Mais ça ne vous fera pas passer de l'obscurité à la lumière. Tandis qu'au XIVe siècle, on en commence à avoir la chance, même si on est un petit chevalier ou un petit combattant à la naissance, on a la chance de pouvoir devenir un personnage célèbre, et c'est d'ailleurs la chance qui est arrivée à Du Guesclin, la chance qui, encore une fois, il a fabriqué, il a eu le mérite non seulement d'être un chevalier preux, mais il a eu le mérite d'être un chevalier, sachant ce qu'il faut faire pour être connu. Alors, la seule exception qu'il y avait dès le XIIe siècle, c'est l'Église, en quelque sorte. Car dans l'Église, qui sait repérer les talents, c'est dès le XIIe siècle faire d'un monsieur repéré dans une petite école de campagne, il peut faire un monsieur cultivé, qui deviendra un grand clerc, et si ce grand clerc devient un écolâtre célèbre, il pourra en effet avoir la renommée sur cette terre par la parole dès le XIIe siècle. Mmh. Et si vous voulez, il y a vraiment ce contraste extraordinaire, et c'est de là que je suis parti, entre des chevaliers qui, eux, doivent tout à leur naissance ou presque, leur prouesse n'ajoutant qu'une couleur à leur naissance, tandis qu'il y a toute une partie de la population qui peut espérer devenir quelque chose dans l'Église.
Sur quoi est fondé le mérite? Comment se fabrique cette renommée précisément?
Il n'y a que deux voies pratiquement. C'est la prouesse d'une part et c'est la science de l'autre. Et la prouesse, c'est en effet ce après quoi les chevaliers courent à longueur de temps. Et tous les auteurs constatent que ce preux mérite d'être connu, ou plus exactement d'être estimé parmi ses pairs, tandis que la science est ce qui fait l'écolâtre, et l'écolâtre, dans son verbe, dans son discours, avec les élèves qu'il a, peut arriver à une certaine renommée. Je cite le cas de Bruno, par exemple.
Avec le rouleau mortuaire.
Qui est né à Cologne, mais qui a été surtout dans sa vie écolâtre à Reims. Et le résultat est extraordinaire, c'est que ce fondateur d'ordre, la chartreuse d'un côté et d'autre, ce fondateur d'ordre est surtout connu en France, où on déplore quoi? On déplore que ce grand enseignant soit mort. C'était vraiment très satisfaisant, si vous voulez, pour des professeurs, de voir qu'il est, possible au XIIe siècle de devenir quelqu'un d'important et de renommé, simplement par ce qu'en disent ses élèves, qui se répercute dans une partie du monde, puisque les élèves se dispersent après, l'Église étant cette grande puissance internationale que nous savons.
Alors justement, vous parlez de Bruno, vous présentez la diffusion de la célébrité, notamment avec ce rouleau mortuaire. D'abord, qu'est-ce qu'un rouleau mortuaire? Et au fond, c'est ce rouleau qui vous a permis de bien voir comment était diffusé le nom de Bruno à travers l'Europe?
Oui, c'est une chance extraordinaire que j'ai eue, c'est que au moment même où je m'intéressais à ces questions, les rouleaux mortuaires ont été publiés dans les collections de l'Institut d'ailleurs, et que j'ai donc eu à ma disposition une édition tout à fait remarquable du rouleau mortuaire de Bruno. De quoi s'agit-il? Eh bien, quand les moines avaient perdu un des leurs, ils envoyaient un messager avec une sorte de lettre de faire-part. Et ce messager, pour les personnages célèbres, pouvait parcourir toute l'Europe. Et à chaque fois, l'abbaye ou le monastère qui recevait ce rouleau faisait comme nous faisons de nos jours, c'est-à-dire envoyait une lettre de condoléance. Cette lettre de condoléance n'était pas envoyée, elle était mise sur le rouleau qui pouvait atteindre des mètres, et qui, au bout d'un voyage de plusieurs mois, revenait à l'institution mère. Et de ces rouleaux mortuaires, il n'y en a pas énormément qui ont été conservés, mais il y en a quand même beaucoup qui ont été mis en valeur récemment. C'est une des sources maintenant que nous avons pour le Moyen-Âge. Et alors, dans ces réponses de toutes ces abbayes qui ont reçu ces rouleaux mortuaires ou qui ont eu le messager, dans ces réponses, il y en a qui sont parfaitement banales, comme vous pouvez imaginer des lettres de condoléances de nos jours. Mais je me suis avisé que si on prenait les mots avec lesquels on parlait de Bruno, on voyait très bien que Bruno était connu d'une part et pourquoi il était connu. Mmh. Ce qui m'a permis de faire une sorte de petit tableau géographique de la renommée de Bruno et de l'étendue de la renommée de Bruno en France d'une part, en Angleterre d'autre part. Le rouleau n'est peut-être pas complet, mais enfin quand même, ça donne un aperçu géographique du plus haut intérêt.
On voit bien le travail de l'historien. L'historien précisément a un rôle à cette époque dans le travail de mémoire. C'est ce que nous allons voir, Bernard Guenet, après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Bernard Guenet de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, auteur du livre « Du Guesclin et Froissart, la fabrication de la renommée », un ouvrage paru chez Talendier. Alors, Monsieur Guenet, nous avons évoqué donc la construction de cette renommée, les mérites attachés à la renommée. Il y a un rôle essentiel joué par l'historien dans la mémoire, puisque au-delà, par exemple, du rouleau mortuaire dont vous parliez, eh bien, on voit émerger un métier, on peut parler de métier d'historien à l'époque ?
Ça dépend dans quel sens vous entendez métier. Si vous entendez par métier quelque chose qui vous permet de vivre, non. Ce sont des gens qui sont par ailleurs moines, la plupart du temps, pendant très longtemps, et qui ils ont la technique, si vous voulez. Ce sont des techniciens qui connaissent les problèmes que pose l'élaboration d'une œuvre historique et qui l'appliquent avec plus ou moins de brio, mais au fil des temps, avec de plus en plus de brio. Et l'art de la compilation, qui est à la base même du travail historique, c'est un art qui se développe essentiellement au XIIe et au XIIIe siècle, et qui fait que nous avons de très grands historiens qui disent le passé à partir de ce moment-là. Enfin, il y en avait déjà avant, n'est-ce pas ? Le problème, c'est qu'il ne faut pas que nos auditeurs confondent deux choses. Il y a les gens qui racontent leur époque, qui sont intéressants, ce sont des témoins. Ce sont des témoins, on peut les croire ou ne pas les croire, mais le travail historique consiste précisément à raconter les époques antérieures. Et ça, ce travail-là est beaucoup plus compliqué. Et ce travail-là, il y a déjà des gens qui savent très bien le faire, au VIe ou au VIIe siècle, et qui ont conscience de quelque chose de nouveau au XIIe et au XIIIe siècle, qui sont au départ des gens modestes, disons, mais qui deviennent très vite conscients de l'importance de leur travail. Et l'importance de leur travail, c'est essentiellement qu'eux arrivent à faire vivre la mémoire. La mémoire des gens et la mémoire des faits passés. Et c'est cette lutte de l'historien pour maintenir la mémoire qui est à la base même de leur travail historique tout au long du Moyen-Âge.
Alors vous écrivez, ce n'est pas le mérite qui assure à un nom une durable survie. Nous avons évoqué le mérite avant la pause. C'est bien l'historien. C'est l'historien qui permet de garder une renommée à travers les âges.
Oui, parce que dès l'Antiquité, on savait que la seule façon de conserver la mémoire, c'était l'écrit, le livre. Et je cite cette anecdote qui courait tout au long de l'Antiquité du Moyen-Âge, où César, ayant eu l'obligation de sauter à la mer d'une nef, avait à la main son livre qu'il avait écrit sur la guerre des Gaules, et l'avait tenu à l'écart de l'eau, pour que sa mémoire soit conservée, que son œuvre soit conservée, et donc que son nom dure. N'est-ce pas ? Dès ce moment-là, on avait vraiment le sentiment très exact que sans le livre, on ne peut rien faire. Et ce livre pouvait être un livre d'occasion, pouvait être un livre construit et écrit par l'auteur, et par conséquent, il était connu simplement parce qu'il avait écrit un livre, mais la plupart du temps, pour les prouesses ou pour d'autres choses, c'est celui qui raconte cette prouesse qui est l'artisan de la mémoire. Or, dans les définitions qu'on donne de la renommée, il y a bien entendu la part du présent, mais de plus en plus, ce qui est important, c'est la part de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui ne se soucient pas de leur avenir, même après leur mort.
Alors justement, il y a un personnage qui se soucie de son image, c'est Du Guesclin. Pourquoi avez-vous précisément choisi ce Du Guesclin ? C'est celui, le premier qui s'affirme en tant que militaire, qui a le souci de s'être renommé ?
Si on fait un peu d'autobiographie, j'avais un de mes professeurs à la Sorbonne, Édouard Perroy, qui passait son temps à crier contre Du Guesclin en disant « mais enfin, c'est une gloire parfaitement détestable, qui est tout à fait artificielle.
Usurpé.
Il en a usurpé, il n'en a pas fait plus que beaucoup d'autres. Et par conséquent, on parle de Du Guesclin, mais il y a une demi-douzaine d'autres grands capitaines au XIVe siècle dont on ne parle pas. Et cette phrase, si vous voulez, est restée au fond de ma mémoire. Et reprenant le problème, je constate que, en effet, Du Guesclin a été un homme de guerre important, mais qu'il a été comme les autres. Il a eu des victoires, il a eu des défaites, il a été fait prisonnier, il a été rançonné 4 fois. A priori, ce n'est pas des exploits exceptionnels que d'être battu si souvent. Mais il se trouve que, de son vivant même, et après sa mort, il a eu tout de suite un poète qui s'appelait Cuvelier et qui a écrit sa vie. Or, dans la vie de Bertrand du Guesclin par Cuvelier, qui est une œuvre en vers de plus de 20 000 vers, j'ai été frappé par le fait que, dès le début, il nous dit « Oui, Du Guesclin, il y a eu la prouesse, mais il y a eu surtout le monsieur qui a su répandre de l'or sur les héros H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire les gens qui chantaient dans les foires ou dans les assemblées. Il a couvert d'or les héros pour qu'on dise du bien de lui. »
Donc il a utilisé les médias de l'époque.
Il a utilisé les médias de l'époque et de façon parfaitement consciente. Et finalement, cette renommée qu'il a eue a fini par être extraordinaire dans le royaume et dans les moments difficiles qu'a connu le royaume au XIVe siècle. Le roi Charles V n'a plus d'autre moyen d'en sortir que de faire appel à ce personnage déjà mythique et qu'était Bertrand du Guesclin.
Donc il a été élu connétable, hein, c'est bien cela. Vous expliquez qu'il y a un flou d'ailleurs juridique autour de cette élection.
Oui, il y a eu un flou juridique parce que tout le monde se sent mal en racontant cette affaire. Le roi se sent mal parce que d'habitude, c'est lui et lui seul qui désigne le connétable. Or là, dans ce cas-là, c'est pas simplement ça qui s'est passé. Il a agi sous la pression de l'opinion publique. Les gens de la famille royale se sentent mal parce que, pour la première fois, le chef des armées royales n'est plus un monsieur de la lignée royale. Par conséquent, c'est une grande révolution, et c'est ça véritablement qui est l'apothéose de la renommée et de l'efficacité de la renommée, c'est que Bertrand du Guesclin, petit noble breton obscur, a été mis à la place d'un monsieur qui aurait dû être de la lignée royale, c'est-à-dire avoir des ancêtres, avoir, si possible, avoir Saint-Louis parmi ses ancêtres. Et Du Guesclin se sentait mal aussi parce que il n'était pas sûr d'être à sa place. Du Guesclin, c'est un chef de bande, et c'est un chef de bande qui a réussi. Alors il s'est mis au service du roi, mais quand même, il ne veut avoir derrière lui l'opinion publique. Et donc, il demande au roi de faire intervenir l'opinion publique pour légitimer, en quelque sorte, son élection. Mais alors, quand on a des témoignages sur cette affaire, Cuvelier va mettre en valeur l'opinion publique, les nobles vont passer les choses sous silence en disant simplement que c'était un bon combattant et qu'il avait pour lui la possibilité d'entraîner toute l'armée derrière lui. Et puis le roi n'en dit pratiquement pas un mot et dit simplement « j'ai choisi Du Guesclin parce que c'est à moi de choisir Du Guesclin ».
Donc c'est vraiment le premier à être monté si haut, hein, en dépit finalement de sa naissance, qui est, vous le disiez tout à l'heure, une naissance non pas obscure, mais non pas la première des naissances. Cuvelier en fait, je parlais tout à l'heure de la gloire éternelle, Cuvelier, lui, il en fait ce qu'on appelle un subito sancto, hein. Il est dans les cieux pour l'éternité. Il y a là encore toujours cette notion un peu de propagande après à sa mort.
Oui, faire de Du Guesclin un saint, non, quand même pas. Mais ce qui
il le voit dans les cieux, hein, vous le citez.
Oui, oui. Mais être dans les cieux, on peut être au paradis sans être un saint, Dieu merci, parce que nos espoirs seraient limités. Non, mais ce qu'il a, si vous voulez, par-dessus tout, c'est qu'il y a parmi les nobles qui l'ont connu, et ceux qui étaient tout jeunes quand il est mort, par exemple le frère de Charles VI, Louis d'Orléans, il y a une admiration passionnée pour Du Guesclin. C'est l'effet de la renommée, c'est l'effet de cette renommée qu'il s'est créée, parce qu'on oublie les défaites et on ne retient que les victoires. le devoir de mémoire n'étant pas un fait historique, le devoir de mémoire serait très gênant si on se souvenait de tout, n'est-ce pas ? Et alors donc, Duc et Klein a été aimé passionnément par ces gens-là, qui l'ont admiré, et qui en ont fait un preux, c'est-à-dire le 10e preux après les 9 preux traditionnels qu'on comptait depuis que les 9 preux avaient été organisés, l'image des 9 preux avait été organisée à la fin du 13e siècle à peu près. Alors ben, on en a fait un 10e preux, ce qui est quand même, vous l'avouerez, une apothéose extraordinaire.
Dans votre ouvrage, vous dites le poids de la renommée, une fois souligné, il nous faut tout aussitôt marquer ses limites. Et vous citez les autres connétables, notamment Olivier Clisson, Philippe d'Artois, etc. Qu'est-ce qui distingue véritablement Duguay Clin de ces autres personnages que l'on connaît absolument ou quasiment pas. Tout le monde connaît Duguay Clin, personne ne connaît Olivier Clisson.
Oui, ben c'est bien dommage. Et Froissart lui-même, si vous voulez, était déjà, à la fin du XIVe siècle, il était gêné par l'importance qu'on a donnée à Bertrand Duguay Clin. Si bien que lui passait son temps, enfin passait son temps non, mais une fois, il a souligné très sournoisement « Oui, oui, Bertrand Duguay Clin, c'est bien ». Mais il y a aussi son frère, Olivier Duguay Clin, qui lui, alors, est un personnage pratiquement inconnu, si vous voulez. Et je crois que Froissart voulait dire par là que des preux, il y en avait des quantités. Mais pourquoi celui-là ? Et pourquoi, en plus, on en a fait, et là, alors, on se demande vraiment jusqu'à quel point, on en a fait un personnage populaire, et peut-être qu'il l'a été à certains endroits. Mais on peut quand même se demander s'il finissait par être populaire dans toutes les régions qui avaient été ravagées par ces soudards au cours de toutes ces opérations militaires. Si bien que, si vous voulez, il faut à la fois enregistrer le fait,
oui,
et puis se demander, et c'est pour ça que je parle de fabrication, c'est qu'on oublie tous les mauvais côtés de Bertrand Duguay Clin pour mettre en avant ses qualités. Et puis alors, si vous voulez, ça correspond aussi à un moment où un monsieur qui n'avait aucune culture, qui savait très difficilement lire et écrire, qui avait refusé d'apprendre à lire et écrire, et ça devient quand même un paradoxe au XIVe siècle, n'est-ce pas ? Un chevalier, c'est déjà un monsieur cultivé. Hein ? Il se bat bien, mais il a des précepteurs et il a de la culture. Or, ce personnage-là est complètement inculte. Il sait à peine lire et écrire, c'est véritablement l'image du rustre qui arrive à être le 10e preux. Et ça, on peut encore, on n'a peut-être pas fini de se demander quelle est l'efficacité de la renommée de la propagande dans ce cas-là.
Donc c'est votre professeur qui avait bien raison ?
Finalement, oui, je crois qu'on peut très bien essayer de dresser la liste des grands capitaines du XIVe siècle et montrer que Duguay Clin est loin d'être le seul, mais il a eu cette particularité qu'il a eu Cuvelier et qu'il a eu lui-même l'entregent nécessaire pour se faire connaître.
Alors vous citiez Froissart il y a quelques minutes. Quel rôle justement joue Froissart en tant que chroniqueur, mais aussi a-t-il conscience de son importance ? C'est ce que nous allons voir à Bernard Guenet après cette pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Je reçois Bernard Guenet, auteur du livre Duguay Clin et Froissart, La fabrication de la renommée, un ouvrage paru chez Talendier. Alors, nous avons évoqué longuement cette renommée, nous avons évoqué également ce personnage, cette exception que constitue Duguay Clin, le premier à être monté si haut. Qu'en est-il de Froissart ? Qu'est-ce qui distingue Froissart ? Quelle est son exception ?
Alors, nous entrons dans un autre monde, n'est-ce pas ? Ce n'est plus du tout le monde des chevaliers, c'est le monde, finalement, des gens de lettres. Et il faut considérer Froissart dans un certain sens comme un des premiers gens de lettres, c'est-à-dire, par définition, un monsieur qui vit de sa plume. C'est-à-dire que jusqu'ici, la littérature était portée, pour l'essentiel, par des gens qui vivaient au chaud, dans des cloîtres, dans des couvents, qui avaient le vivre et le couvert, et par conséquent, qui ne se souciaient pas de leur vie quotidienne. Et puis il y en avait d'autres, des besogneux, qui se souciaient de leur vie quotidienne, qui étaient dans les cours des grands, qui vivaient tant bien que mal et qui cherchaient un patron. Ils y arrivaient, mais ils n'y arrivaient pas tout le temps. Et en définitive, il n'y avait pas un public qui portait l'homme de lettres et qui lui aurait donc permis de vivre de sa plume. Et puis donc au XIVe siècle, il y a une sorte de révolution qui fait qu'il y a un public de plus en plus cultivé qui a besoin de lire, d'entendre des histoires, de préférence ses propres histoires. D'un autre côté, il y a une technique qui a permis la multiplication des livres. C'est-à-dire que, ça aussi c'est un élément très important, au XIIIe siècle, au XIIe siècle, il y avait des scribes qui peinaient à écrire un livre. Et au XIIIe siècle, on a inventé cette chose, qui est le premier élément de l'histoire du livre, un élément fondamental pour comprendre sa diffusion rapide. C'est-à-dire que si vous prenez un livre, que si vous le divisez en autant de mains qu'il y a des mains de papier ou de parchemin que vous avez, si vous donnez à 10 scribes différents 10 mains de parchemin, vous avez votre livre en un temps record. Par conséquent, les dominicains et les professeurs à l'Université de Paris, au XIIIe siècle, ayant besoin de livres pour leurs étudiants et pour leur propre enseignement, ont inventé ce système dit de la pessia. La pessia, c'est cette partie qu'on peut donner à un scribe qui copie ça, mais qui ne copie pas avant et qui ne copie pas après. Et cette pessia permet de multiplier les livres. C'est-à-dire qu'au XIVe siècle, il y a à la fois un public plus nombreux et des livres plus nombreux. Et donc, les gens de lettres vont commencer à pouvoir espérer acquérir une certaine renommée par leurs livres, sans passer forcément par le mécénat, quoique le mécénat soit quand même une chose encore très importante.
En fait, des noms secrets, alors que, par exemple, au XIIe siècle, vous parlez de l'école dionysienne, les monastères bénédictins, eh bien, écrivaient dans l'anonymat. L'anonymat primé, alors que peu à peu vont apparaître des noms.
C'est ça. Ce qui m'a frappé, c'est qu'entre le XIIe et le XVe siècle, finalement, il y a beaucoup d'œuvres historiques qui sont encore anonymes. Elles sont anonymes pour beaucoup de raisons, elles naissent à l'ombre des cloîtres, les historiens ont la prétention d'être modestes, par conséquent, quelquefois ils ne donnent pas leur nom, mais quelquefois, en toute modestie, ils préfèrent le donner. Et puis, si vous voulez, c'est un travail d'équipe que l'histoire, la plupart du temps. Par conséquent, comme c'est un travail continu, et que c'est un travail d'équipe, il n'y a aucune raison de donner un nom plutôt qu'un autre. Et puis les choses changent avec le XIIIe siècle, où l'historien devient de moins en moins modeste, parce qu'il a conscience d'être un grand technicien de la formule fondamentale de l'histoire et de la fabrication de l'histoire, qui est la compilation. La compilation n'est pas à la portée de n'importe qui. Et par conséquent, la compilation n'est pas à la portée de n'importe qui, et l'historien commence à affirmer son nom. Et puis, au XIVe siècle, apparaissent alors des gens de lettres qui ne sont pas des gens de cabinet, qui ne sont pas spécialisés dans la compilation, qui racontent l'histoire de leur temps en faisant des enquêtes auprès de différentes personnes, qui se rapprochent davantage du journaliste d'information, si vous voulez, et dont toute la gloire est de faire de beaux récits. Et ce récit doit toucher un grand public. Par conséquent, ces gens qui sont connus au XIVe siècle, c'est des gens comme Froissart, qui a le mérite de faire des enquêtes, d'être un beau parleur, d'écouter les histoires, et surtout de savoir les raconter de façon admirable. Froissart n'est pas un personnage qui dit les choses exactes. Il se trompe souvent, parce qu'au fond, ce n'est pas ça qui importe. L'essentiel, c'est le trait, c'est le récit bien construit, avec les contrastes et tout ce qui fait la qualité d'un récit.
Il y a donc une autonomie de la discipline, il y a également des noms qui émergent, mais est-ce que le public de lecteurs est important à cette époque ?
Il est plus important qu'avant. Pour nous, il est ridiculement faible, si vous voulez. Mais il est plus important qu'avant, et précisément, les auteurs vont commencer à espérer qu'on les lise. Le problème, c'est que précisément Froissart se trouve au moment où il peut espérer des lecteurs, mais où il ne les a pas encore forcément. Parce que c'est un homme de cour, il raconte admirablement les histoires. Par exemple, Gaston Phoebus le reçoit et pendant des mois, il va réciter son grand poème de Méliador. Gaston Phoebus s'endort avec Méliador, si j'ose dire. Par conséquent, il dépend de l'attention que lui portent ces grands personnages dans les cours. Et le nombre de manuscrits, parce que c'est encore ça une notion importante, une œuvre est connue, on peut le juger, nous, d'après le nombre de manuscrits qui circulent. Eh bien, même Froissart, dans la seconde moitié du XIVe siècle, a encore très peu de manuscrits de ses chroniques. Enfin, c'est venu plus tard. Autrement dit, Froissart a travaillé à sa gloire en racontant des histoires de Preux et en essayant de parler non pas simplement de Bertrand du Guesclin, mais de beaucoup d'autres. Mais en racontant ces histoires de Preux, auxquelles il donne la mémoire, eh bien, en vieillissant un peu, il s'est dit qu'après tout, pourquoi pas lui ? Et pourquoi est-ce que lui-même n'acquerrait pas la renommée en racontant les histoires des Preux auxquels il donne la renommée ? Il ne l'a pas fait tout de suite, mais pratiquement au début du XVe siècle, il était en effet un grand historien renommé et par conséquent, il était arrivé à son but, mais avec un peu de décalage. Les grands historiens renommés de leur vivant, c'est encore assez exceptionnel, si vous voulez.
Vous avez une phrase extraordinaire à la fin de votre chapitre 10. Vous écrivez, je destine cette phrase aux étudiants en histoire, notamment évidemment en histoire médiévale. Les historiens au XIIe siècle avaient pensé à leur œuvre. Au XIVe siècle, ils ont pensé à leur public. Un véritable décalage. On en conclut que le texte et le contenu du texte peut être largement biaisé.
Ah ben ça pourrait être biaisé, il était déjà biaisé au XIIe siècle. Parce qu'ils construisaient leur œuvre pour faire passer leurs idées. Par conséquent, au texte qui était leur source, ils ajoutaient un mot par-ci, un mot par-là, et tout le sens pouvait changer. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'étudie un historien du XIIIe siècle, Prima, et j'essaye de voir comment il fait passer ses propres idées à partir des sources qu'il utilise, mais auxquelles il ajoute ceci ou cela. Donc, ça peut être déjà biaisé. Seulement, la différence, c'est qu'il savait que c'était biaisé et qu'il y a très peu de gens qui le sauraient et qu'ils ne travaillaient en somme que pour eux, pour les moines de leur monastère et pour quelques rares personnes qui, dans la bibliothèque où seraient déposés leurs livres, ils seraient lus. Tandis qu'au XIVe siècle, ils ont la possibilité, ils le savent, d'être connus et lus par un plus large public. Et par conséquent, ça va devenir leur obsession fondamentale que de plaire à ce public. Et donc, il va y avoir forcément un récit qui ne sera pas forcément bien juste au fond, mais qui aura l'avantage de retenir l'attention du public qu'ils veulent toucher.
Nous disions tout à l'heure, à propos de du Guesclin, qu'il payait des gens pour écrire. L'or a bien évidemment son importance. Est-ce que Froissart, lui, reçoit des faveurs ? Vous parliez tout à l'heure d'un homme de cour. On se doute que quand on fait partie de la cour, en tous les cas de la cour à cette époque, on peut recevoir des faveurs pour obtenir une plume plus clémente ?
Oh bah oui, ça c'est évident. Il parle de ses maîtres. Ses maîtres, ce sont des gens qui le payent. Alors, qu'est-ce qu'il a pour vivre, un personnage comme Froissart ? Il a quelques bénéfices ecclésiastiques. Mais ces bénéfices ecclésiastiques, il n'en a pas beaucoup, parce qu'il est à un mauvais endroit, si vous voulez. Il est à la limite, au moment du grand schisme, entre les deux obédiences pontificales. Alors, il est très difficile d'avoir, il n'a jamais eu les vraies bonnes prébendes qu'il aurait souhaitées. Lui-même n'étant pas français, mais ennuyé, n'est-ce pas ? Alors, la chose était difficile. Mais avoir de l'argent en disant « je suis en train d'écrire des chroniques sur lesquelles j'attire votre attention », il a eu les bienfaits et l'argent de la reine d'Angleterre et de bien d'autres. Et en particulier, on raconte cette histoire que il a fait le récit de Nicopolis, et il y a un serviteur du Seigneur qui est mort à Nicopolis, qui était un de ses maîtres précisément, qui dit, ben bon sang, qu'est-ce que mon maître a donné d'argent à Froissart pour faire ses chroniques ? Ben, qui n'a jamais lu, il n'en a jamais lu une ligne, n'est-ce pas ? Parce que c'était de l'argent donné a priori pour permettre d'écrire, de faire la documentation. C'est en somme des, ils avaient des bourses, en somme, pour faire leur documentation et pour écrire. Ben, c'est comme à chaque fois les bourses. Quelquefois, ça rapporte une œuvre, quelquefois, ça ne rapporte rien du tout.
Alors, vous terminez votre ouvrage sur un concept, celui de modernité. Le XIVe siècle est beaucoup plus moderne qu'on ne le croit.
Moi, j'en suis persuadé. Il est beaucoup plus moderne, il est beaucoup plus constructeur qu'on ne le croit. Le XIVe siècle a la réputation d'être un siècle terrible. Je ne dis pas que j'aurais aimé particulièrement vivre au XIVe siècle. La guerre de Cent Ans n'est pas à encourager, n'est-ce pas ? Mais quand même, dans beaucoup de domaines, le remuement intellectuel dans les arts, dans la musique, dans la politique, il y a énormément de grands esprits à ce moment-là, dans tous les sens. Et tous ces gens circulent et vivent dans une atmosphère qui n'est plus du tout l'atmosphère du XIIIe siècle et dont beaucoup de traits annoncent en effet la modernité. Alors souvent, les gens croient que la modernité, ça consiste à trouver un élément qu'on rencontrait déjà au XIXe siècle, au XVIIIe siècle. Ben pour nous, les médiévistes, nous savons qu'il y a quand même encore des traits de l'histoire de France qui ont commencé à se modeler au Moyen-Âge, ou en tout cas au XIVe et au XVe siècle, certainement.
Eh bien, merci Bernard Guenet d'avoir présenté la fabrication de la renommée. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, Du Guesclin et Froissart, la fabrication donc de la renommée, un ouvrage paru chez Talendier. Nous nous retrouvons, Bernard Guenet, pour les 5 minutes de Clio dans quelques instants. Restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.